RMC, entre les poteaux,
Pierre Thévenet.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel apéro des poteaux. On les a attendus toute l'année, nous y sommes ce week-end. Les phases finales de Top 14 démarrent, deux matchs, deux barrages qui s'annoncent électriques. La section paloise accueille le Racing 92. C'est samedi soir à 21h05 au Hameau. Et dimanche, le Stade français va recevoir La Rochelle à la même heure. On vous dit tout ce qu'il faut savoir sur ces rencontres, les enjeux, les compositions d'équipe dans cet épisode de l'apéro des poteaux. Et pour évoquer ces deux affiches qui s'annoncent évidemment chaudes, deux hommes qui vont vibrer ce week-end. Romain Asselin qui suit La Rochelle toute l'année. Salut Romain.
Salut les amis.
Et Eddy Artigaud du côté de Pau. Salut Eddy.
Salut Pierrot, bonsoir à toutes et à tous.
Messieurs, on va prendre ces deux matchs l'un après l'autre. Mais avant ça, rapidement, votre sentiment sur ce week-end. La dernière journée, le dernier multiplex a été dingue. Là, on sent quand même qu'on entre vraiment dans ce qui va faire le sel de cette saison.
On a envie que ce soit dingue encore, Eddy. Et moi, ce qui me plaît sur ces deux affiches de barrage, c'est qu'il y a deux oppositions de style sur les deux matchs. Et franchement, je suis très impatient de voir aussi bien le premier barrage que le second, parce que je me dis que ces quatre équipes-là, elles ont quand même quelque chose à faire en demi. Peu importe qui va se qualifier, je pense qu'on peut aussi avoir de très belles demi. On disait la semaine dernière que ce championnat n'avait peut-être jamais été aussi ouvert. Dans la quête du Brennus, je pense qu'on rentre dans le vif du sujet ce week-end et que ça va être génial.
Eddy, t'es d'accord, championnat hyper ouvert là, n'importe qui peut être champion à ce stade-là.
Bah évidemment, de toute façon, les managers l'ont dit, il y en avait 14 au départ, il n'y en a plus que 6 avant ces barrages que tu évoquais, Pierrot. Donc effectivement, tout le monde a sa chance. Alors évidemment, beaucoup disent que Montpellier et Toulouse sont peut-être les favoris pour toucher le bout de bois en fin de saison. Mais c'est vrai que c'est, pour parler de Pau et du Stade français, des équipes qui ont quand même été, depuis la deuxième partie de saison, toujours très très bien positionnées. Elles ont même à un moment donné rêvé au top 2. Voir La Rochelle, c'est une belle surprise. Et moi, j'aurais rêvé en tant que palois de voir un section Palois de La Rochelle en barrage.
Ouh là là, que de souvenirs ça.
Ouais, que de souvenirs. Mais bon, c'est vrai que c'est une vraie opposition de style demain soir au Hameau. Ce sera aussi une opposition de style dimanche soir. Et on en salive à l'avance. Eh bien, qui de Pau, du Racing, du Stade français ou de La Rochelle rejoindront Toulouse et Montpellier. On a hâte d'être.
Moi, j'ai du mal à faire des pronos, je vous le dis.
C'est très compliqué de se projeter parce qu'on a un peu comme Eddy le disait, les deux équipes régulières de la saison, Pau et le Stade français, qui accueillent deux équipes qui sont très en forme sur des formes différentes. C'est-à-dire que La Rochelle, on va reparler Romain, mais est en forme depuis plusieurs semaines. Le Racing a fini très très fort et en effet, il y a en plus de ça des oppositions de style hyper, hyper intéressantes. On va commencer par ordre chronologique, évidemment, par ce premier barrage. Pau, Racing 92, samedi soir, 21h au Hameau. Eddy y sera, avant de parler du match, ça va être une immense fête pour la section qui retrouve ce stade-là de la compétition.
Oui, c'est une grande première. La dernière fois que Pau avait disputé une demi-finale de Top 14, c'était du Top 16, c'était en l'an 2000 face à Colomiers.
Oula, et j'y étais déjà. Pierre était pas né, moi je te le dis.
Si, je venais d'être.
Et c'est vrai que c'était une saison incroyable pour la section paloise. Depuis, Pau a galéré, on le sait, en Pro D2 pendant de longues saisons. Avant un retour dans l'élite, c'était en 2015 avec un titre de champion de France. Et depuis, 11 ans, la section paloise a ferraillé, batailler pour essayer de se qualifier pour une phase finale, ce qui a donc été fait le week-end dernier après la victoire bonifiée face à Montauban. Mais c'est vrai que c'est tout un peuple qui attend ce match-là demain soir. Ce sera évidemment Pierrot et Romain à guichet fermé. On attend aux alentours de 16 500 spectateurs donc pour ce match face au Racing 92. Mais revenir quand même sur un élément qui est important, c'est vrai qu'on parle de ce barrage, de cette fête demain soir au Stade du Hameau, mais ça fait maintenant quasiment deux ans que le Hameau affiche quasiment guichet fermé à chaque rencontre. C'est vrai que Pau a continué de progresser. Pau a terminé l'année dernière 8e du classement général, ce qui lui a valu d'ailleurs une qualification pour la Champions Cup. Cette année, les Palois ont été dans le top 4 quasiment toute la saison, donc les supporters ont continué de pousser derrière cette équipe. Et c'est vrai que ce sera demain soir vraisemblablement un feu d'artifice aux alentours de 18h30 pour l'ouverture des portes du stade du Hameau. Et tout le monde va converger évidemment vers les tribunes aux alentours de 20h45. 21h pour le coup d'envoi de ce match.
Deux ans de guichet fermé, ces petits joueurs.
Hein. Oh, ça va.
Ils sont à 11 ans à La Rochelle.
Oui, ils sont à 0 semaine. Mais pourtant, c'est une équipe de top 14 quand même.
trêve de plaisanterie, il me semble avoir lu qu'ils auraient pu très bien remplir deux hameaux pour ce match. L'engouement est énorme.
Ouais, l'engouement est énorme. Sous l'ancienne municipalité de François Bayrou, l'ancien Premier ministre avait validé le fait que le stade soit fermé. Il manque encore une tribune pour que le stade varie entre 18 500 et 19 500 spectateurs. Il y en aura aux alentours, je le disais, de 16 500, 16 700 peut-être demain soir. Mais c'est vrai que les demandes ont été incroyables. On aurait pu faire plus de 30 000 personnes pour ce match de barrage.
Pour revenir sur le sportif, la première partie de saison, Eddy, était incroyable. À la mi-saison, il y a 13 points d'avance sur le MHR. Ils sont deuxièmes dans le top 2 jusqu'à la 22e journée de ce top 14. La fin est un petit peu plus compliquée, même si ça restait tout à fait correct à Pau. Eddy, est-ce qu'il y a des regrets sur le fait de ne pas être dans le top 2? Patrice Collazo nous le disait cette semaine. Il disait, moi, sur la saison, je trouve que c'est une équipe qui aurait dû être top 2, qui aurait dû être top 2. Est-ce qu'il y a des regrets ou est-ce que, avant tout, le fait d'être dans ce top 4 et de recevoir un barrage, ça efface tout et ça leur suffit?
Oui, alors évidemment que l'objectif majeur pour Sébastien Pigoroni, le manager de la section, c'était bien sûr de se qualifier. Hein. Il n'a cessé de le répéter tout au long de la saison. Mais c'est vrai que, évidemment, l'appétit vient en mangeant. Et Pau a quand même été invaincu toute la saison à domicile. La seule équipe qui n'a pas perdu sur ses terres, avec 4 victoires très précieuses à l'extérieur. Mais j'ai posé la question à Sébastien Pigoroni il y a déjà quelques semaines. Et il a 2 regrets. Tout d'abord, ce match perdu sur la pelouse du Racing 92, hein.
Oui,
c'est une belle histoire. Ouais, à Créteil, lorsqu'on se rappelle que Thomas Laclaria rampe, pense avoir marqué l'essai qui aurait permis à la section paloise quand même de s'imposer avec le bonus offensif, Pierrot. Ce jour-là, finalement, c'était peut-être 4 points de perdu. Et puis, beaucoup plus récemment, c'était à Jambouin lorsque la section paloise menait encore de 8 points à 2 minutes de la fin du match face aux Parisiens. Finalement, aussi, un revers. Qui a coûté quand même quelques points et qui a certainement coûté le top 2 à la section paloise, parce que derrière on se rappelle que Pau avait reçu coup sur coup l'équipe du Castres Olympique, l'équipe de Clermont, avant de plier à Montpellier et de dérouler face à Montauban. Donc il manque peut-être 2 ou 3 points au compteur au Béarnais pour terminer dans le top 2, mais la qualification quand même était vraiment la nouvelle et ce que tout le monde attendait depuis tellement de temps. De surcroît, un barrage à domicile, donc c'est quasiment, on peut dire, la cerise sur le gâteau pour l'effectif béarnais.
Mais pour se projeter sur ce barrage, tu disais, j'y étais à ces 2 matchs au Racing et au Stade Français. Au Racing, on a une équipe qui on ne sait pas trop comment elle perd ce match. Le Racing arrive à s'imposer, il y a une décision arbitrale, tout ça. Au Stade Français, physiquement, ça pioche sur les 20 dernières minutes, je trouve. À Clermont, ils m'ont fait un petit peu peur aussi sur cette fin de match. Romain, est-ce que cette fin de saison paloise t'inquiète un petit peu? Est-ce que tu penses que physiquement ils vont être prêts et est-ce qu'ils vont pas payer leurs efforts sur toute cette saison où ils ont été pour le coup hyper réguliers et présents toute l'année?
Moi, je suis pas inquiet. Je suis vraiment pas inquiet parce que, tu vois, j'étais en train de regarder leurs résultats. Alors oui, ça manque un peu de régularité, mais quand tu regardes leurs résultats,
dans l'impression, dans l'impression qu'ils laissent, qui est un peu moins forte.
Ouais, mais c'est, en même temps, peut-être qu'ils sont aussi un peu en gestion. Tu me diras, fallait pas trop l'être non plus, parce que la qualif aurait pu s'envoler tellement c'était dense. Non, moi je suis pas si inquiet que ça, très franchement. Je pense qu'ils ont beaucoup de certitudes avant cette phase finale. C'est quand même compliqué de tenir une telle régularité sur toute une saison pour un club aussi jeune, un groupe aussi jeune. Mais non, moi ce qui me bluffe, c'est qu'ils ont passé, je dirais, sans encombre ou presque. Moi, cette période qui me faisait très peur pour eux, c'est les doublons et le poste 6 nations. Je trouve qu'ils s'en sont finalement super bien sortis. Et avec une profondeur d'effectif quand même qui s'affine. Donc, je trouve ça presque logique, tu vois, cette forme de... Alors, peut-être pas décompression, mais... qu'ils aient moins montré en fin de saison ce qu'ils ont pu montrer pendant quasiment la moitié de l'année. Moi, je pense que ça peut vite revenir. Maintenant que ça va compter, l'euphorie du truc à la maison, invaincu à la maison, la première phase finale. Non, je pense que je les vois favoris demain.
Eddy, t'es d'accord avec ça? Tu penses que ça va redémarrer?
Ouais, je pense que ça va redémarrer, mais même si encore une fois...
Ça s'est pas vraiment arrêté, on dit redémarrer.
Ça s'est pas vraiment arrêté, parce que quand même, sur le dernier bloc, on rappelle que Pau avait écrabouillé Bayonne avec le point de bonus offensif. Les Palois vraiment à 2 doigts de gagner quand même au Stade Français. Bon, ce revers à Montpellier, mais enfin, Montpellier roule sur quasiment tout le monde depuis maintenant plusieurs semaines. Donc le match face à Montpellier, on peut le mettre de côté. Ces victoires, donc, un petit peu dans la douleur quand même face à Clermont. Et puis, cette dernière belle fête au Stade du Hameau pour fêter les joueurs qui quitteront prend le club à l'issue de cette saison donc face à Montauban. Donc je pense qu'il y a une vraie dynamique. Les cadres ont été mis au repos quand même, on en reparlera évidemment dans les compositions d'équipe, mais comme l'a dit encore une fois Sébastien Piccheroni, on va croquer dans cette pomme-là. On s'est battu toute la saison pour ça. Donc maintenant, on y est. Alors, favori ou pas favori, je dirais que sur le papier, c'est peut-être du 50-50 au vu de l'effectif du Racing et vu comment les Franciliens jouent quand même au rugby depuis maintenant pas mal de semaines. Hein. Tout le monde se souvient de cette magnifique victoire sur la pelouse de Clermont. Mais c'est vrai que Pau est dans une très très bonne dynamique et je pense quand même qu'avec le soutien de ce public béarnais, ouais, ils seront peut-être 16 au coup d'envoi face à 15 Racing.
Et sur le terrain, ça va être, tu le disais Romain tout à l'heure, un vrai affrontement de style, même si le Racing 92 se défend de ne pas être une équipe uniquement brutale. Ça l'est quand même un petit peu, c'est une équipe hyper puissante, le Racing, qui commence ses matchs devant en voulant casser très fort la défense adverse, à la fois avec ses avants. On pense à Romain Taofifénois, Patrice Colozo nous a dit, il descend le premier du bus, il faut qu'il fasse l'effet escompté. Il y a Nathan Hughes qui est là, il y a Demba Bamba,
ils ont des beaux bébés,
Manyara, hein, il y a Taniela Tupou, ouais. Il y a des beaux bébés devant et derrière aussi. C'est ça qui est dingue, c'est que Josh Tuisova, Vinaya Abossi, c'est pas n'importe qui non plus. Le Racing, c'est l'équipe quand même qui a le plus faible temps de possession en top 14, derrière Montauban notamment, qui a fait par exemple 4 fois moins de passes que le Stade Toulousain lors de leur victoire face au Rouge et Noir le week-end dernier. C'est fort devant, c'est fort derrière. Eddy, est-ce que tu penses que la victoire paloise passerait d'abord par une grosse performance physique ?
Ah oui, c'est certain. Et d'ailleurs, les joueurs qui se sont entraînés à Souston, à une trentaine de kilomètres du Pays Basque depuis mardi, l'ont dit, il faudra que nous allions ferrailler devant face au Racing. On sait que le rugby commence devant, mais ce sont les mots des avant-palois, hein, tout au long de cette longue séance d'entraînement. Et d'ailleurs, Pierrot et Romain, je vous propose d'écouter Sacha Zeger, le troisième ligne de la section paloise, qui sera titulaire demain soir, qui nous parle quand même de cette énorme machine qu'est aujourd'hui le Racing 92.
C'est une machine qui fait que avancer. Ils ont des grosses individualités. On les a reçus il y a un mois, ça a été on va dire l'un des premiers matchs difficiles à la maison à remporter, voilà, on gagne à la fin. Donc on sait à quoi s'attendre et on sait que samedi ça va être très dur. Ils ont des grosses individualités, des gros porteurs, des facteurs X, ça s'est vu encore ce week-end. Voilà, ils ont énormément de joueurs qui prennent le ballon, qui avancent et qui cassent des plaquages. Donc on sait que ça va être un gros combat pour nous les avants parce qu'on va devoir ferrailler. Et les trois quarts, ça va être à eux de finir le job.
Voilà, hein, les mots de Sacha Zeger. Il va falloir ferrailler devant, Pierrot, face à une équipe du Racing très athlétique, tu le disais,
bien sûr.
Avec des vrais manieurs de ballon
quand
aussi.
Même. Ouais, ah, mais bien sûr, mais c'est ça que j'allais te demander, Eddy ou Romain d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que Pau, avec les recrues de la saison dernière, avec notamment Julian Montoya, on en parlait beaucoup avec Thomas Laclaya, avec aussi les BK Gorgadze qui est toujours à un niveau énorme, Oradou Maximin qui sont internationaux, est-ce que le pack palois n'est pas finalement largement au niveau de celui du Racing?
Mais je pense, avant de laisser la parole à Romain, je pense que oui, Pierrot, tu as raison, parce que tout le monde, encore une fois, en mémoire ce match à Montpellier où Pau s'est fait retourner comme une crêpe, mais à l'exception...
Avec Papizé qui se fait monter au plafond par la mêlée montpelliéraine.
Mais à l'exception de ce match-là, la mêlée paloise, sous les ordres d'un certain Thomas Domingo, a quand même été très performante tout au long de cette saison. Et tu évoquais ces noms-là, mais c'est vrai que Pau avait cassé sa tirelire l'année dernière pour faire venir Laclaya, Montoya ou encore Facundo Issa, qui sera absent pour ce barrage car il est blessé le Pumas. Mais c'est vrai que Pau a des arguments en première ligne. Jimmy Maximin, quand même, 2m03, 140 kg, qui va pousser avec Hugo Radou, qui est le capitaine de cette touche de la section paloise. Le retour de Luke Whitelock en tant que titulaire, Sacha Zeger, Gorgadze. Pau a clairement, et je pense que Romain, tu seras d'accord avec ça, les moyens de ferrailler, en tout cas de jouer au niveau du Racing.
Ouais, puis je pense que tu vois, même si peut-être sur le papier c'est un chouïa moins costaud, je pense qu'ils ont un tel vécu collectif maintenant. Moi, je sens une énorme solidarité aussi dans cette équipe et notamment devant qui parfois, tu sais, ce petit phénomène de je fais l'effort en plus pour le copain peut tellement compenser, on va dire, un manque de tonnage. Donc je me fais pas trop de soucis pour la section paloise pour rivaliser. Maintenant, je pense que la clé pour eux, c'est effectivement de rivaliser et puis ensuite d'écarter. Ouais. C'est très bien que ça sert à rien d'écarter sans fixer, sans gagner, sans avancer. Il faut les déplacer. Il faut les déplacer, les Fidjiens, les centres Fidjiens. Il faut les déplacer, les massifs piliers et deuxième ligne franciliens. Je pense que la clé, elle est là pour Pau.
ils ont les moyens, en mettant de la vitesse, de leur faire très mal à ces Racing Men. Je pense que c'est le plan de jeu que va adopter Sébastien Pigueroni.
Mais attention, il y a une chose pour basculer un peu sur le Racing, une chose qui est à noter côté Racing 92, c'est qu'ils sont très à l'aise à l'extérieur. 4 victoires et 1 nul cette saison, 1 nul au Stade Français. Ce match au Stade Français, ils doivent le gagner d'ailleurs. Ils sont rejoints à la dernière minute. À Castres, ils perdent dans les dernières minutes. À Pau, ils perdent aussi dans les dernières minutes. Ils l'ont beaucoup dit cette année, ils sont pris plein de portes dans la tête sur des matchs à l'extérieur qui sont pas toujours les plus aboutis ou les plus plaisants à voir, mais le Racing est une équipe qui est accrocheuse, un peu comme le Stade Français. On en parlera aussi après.
Oui, mais pourquoi ils perdent dans les dernières minutes? C'est quoi? C'est physique? À force de se faire déplacer, ils sont rôtis.
Pour moi, il y a deux choses. Physiquement, c'est arrivé par exemple à Bordeaux ou à Toulouse, où je trouve que quand ils sont tellement dans l'intensité et dans le combat, que souvent il y a des bêtises. Il y a le coup de tête de Yannick Tarit à Toulouse, il y a un carton jaune de Bordeaux, manque de lucidité, parce que tu es tellement dans l'affrontement tout le temps et dans le fait d'être présent physiquement, à l'énergie, que parfois ça pète. Dans d'autres cas, c'est un problème d'expérience aussi, parce qu'il faut rappeler que c'est une équipe qui est jeune, notamment au niveau de la charnière, avec Léo Carbonneau et Antoine Gibert qui vont jouer, mais sinon il y a aussi Hugo Sun qui est là souvent. C'est une équipe qui n'a pas forcément une charnière adaptée à son style de jeu. Joueurs qui ont envie d'envoyer et qui parfois ne respectent pas exactement les consignes de Patrice Collazo. Donc équipe jeune qui a peu de repères collectifs, il y a 15 joueurs qui ont changé l'été dernier, c'est énorme. Donc voilà, il y a eu plein de petites raisons de ces défaites là mais moi il y a un match, Romain, je sais pas ce que t'en penses, mais ce match à Clermont, il m'a fait remettre tout en question. Je pensais moi aussi que le Racing pourrait pas aller au bout, mais ce qu'a fait le Racing à Clermont en gagnant 41-13, en balayant complètement les Clermontois, c'était assez dingue. On peut écouter d'ailleurs Patrice Collazo qui le raconte: quand c'est le plus dur, c'est là selon lui que le Racing est le meilleur.
Il y a plein de matchs à l'extérieur qu'on fait, qu'on a sorti la perf à Clermont. Donc, voilà. Moi, je trouve qu'on n'est pas très à l'aise avec les évidences. À chaque fois que c'était une évidence pour nous, par contre, quand c'est pas évident et qu'on est en mode challenger, attention quand même.
En mode challenger, attention quand même, nous dit Patrice Collazo. La clé pour cette équipe du Racing, ça va être l'énergie. Et Patrice Collazo l'a dit plein de fois, si cette équipe-là est à 200% dans l'énergie, dans tout ce qu'elle fait, tous les joueurs, alors elle peut battre n'importe qui. Mais ça va être compliqué, Romain, évidemment, de manœuvrer l'équipe qui est beaucoup plus structurée du côté de la section Palos et qui, on a l'impression, a plus confiance en son rugby.
Ouais, peut-être, Pierrot, oui, mais si on se réfère aux confrontations directes, tu le disais, Pau aurait dû normalement s'imposer à Créteil, c'était en début de saison, mais franchement, pour avoir vu le match du Racing à Pau, je crois que Peyo Landry en parlait dans le Moscato Show, c'est vrai que le Racing menait 17-6.
Mais sans faire grand-chose, c'est ça, non, le match était assez dingue, c'est qu'ils les ont enfermés dans un faux rythme, mais c'est ça que Pau va
complètement
devoir éviter.
Ouais, complètement, mais c'est vrai que Pau s'en sort à la fin un peu miraculeusement. D'ailleurs, ce sont les mots de Sébastien Pigueroni. Je sais pas comment on a fait pour le gagner ce match-là.
Ils ont fait pour le perdre, hein, les Racing.
mais bon, c'est pour ça que ça s'équilibre quand même sur une saison, parce que encore une fois, au match aller, Pau aurait peut-être dû s'imposer et peut-être même avec le bonus offensif. Donc c'est vrai que sur cette ligne de départ de ce barrage, on peut aussi parler quand même un petit peu d'expérience. Thomas Domingo le disait à Souston mardi. Le Racing a quand même une expérience de ces matchs de phase finale qui ont déjà quand même remporté des titres, disputé des finales européennes. Donc je sais pas si la pièce va tomber du côté de la section ou du Racing. Encore une fois, l'avantage du terrain, évidemment, avec ce public qui va pousser derrière Pau, ce sera évidemment à mettre à l'avantage des Béarnais, mais cette équipe du Racing quand même à fière allure. Et moi, je sais pas Romain ce que t'en penses, mais ce match là du Racing sur la pelouse de Clermont, c'est pour moi l'une des plus grandes surprises de la saison régulière.
T'as Clermont qui va gagner à Toulouse aussi.
Oui,
il y a eu tellement de surprises ces dernières semaines. T'as La Rochelle qui va gagner au Racing. C'est une première.
Oui, c'était moins impressionnant. J'ai trouvé que Clermont
aurait pu valider sa qualification pour le top 6 s'ils avaient battu le Racing 92. Ils auraient écarté les Franciliens de la course au top 6. Donc ce jour-là, c'est une vraie performance. Et Pierre l'a rappelé, ce score de 41-13. Enfin, le Racing a tout simplement.
Ils ont montré qu'ils étaient capables de le faire. Et on le savait pas cette année qu'ils étaient capables d'aller au bout de ce projet-là et de sortir un match comme ça.
C'est pour ça, et j'en reviens à ce que je disais en intro. C'est que ce qui s'est passé ces dernières semaines nous donne l'impression qu'en fait tout est remis en question et il peut tout se passer à chaque match. C'est très difficile d'avoir des certitudes en tant qu'observateur. Déjà que j'ai l'impression que les équipes n'en ont pas beaucoup, mais alors en tant qu'observateur, ouais, c'est compliqué, hein, de savoir où tourner la tête, quelle est la bonne dynamique. Waouh, c'est dingue. Oui, effectivement, on a tous été impressionnés par cette performance du Racing. Maintenant, est-ce qu'ils sont capables de répéter?
Ça, on sait
c'est,
pas.
C'est ça aussi la force d'une grande équipe, surtout à ce moment-là de la saison. Un Brennus, ça se construit sur une dynamique de fin de saison.
Pour nous éclairer. Sera... Pardon. Vas-y, finis.
Non, je t'en prie, mais non. Ce sera l'une des interrogations pour moi de demain. C'est est-ce que le Racing est capable maintenant d'enchaîner sur ce rythme-là pendant plusieurs matchs, quoi.
Pour nous éclairer justement sur ce match, les compositions d'équipe. Je commence avec celle du Racing parce qu'on parlait de ce club-là. On aura Gogi Chachvili titulaire pilier gauche, Demba Bamba à droite et Tarit en talonneur. Leno qui monte en deuxième ligne avec Romain Taofifenua capitaine bien sûr. Bodon, Hill et Maniarara qui lui avait été énorme, le Zimbabwéen sur la pelouse de Clermont en numéro 8, et Carbono Gibert à la charnière, Joe Manu et Vinaya Abossi au centre, Spring sur l'aile gauche, Wilfried Duleux, pardon, je confondais avec son frère, sur l'aile droite, et Sam James à l'arrière avec sur le banc Diego Escobar, Edouard Djabéa, le jeune international U20 en pilier gauche, et Tani Latupou en pilier droit, Tagi Valou, Jordan Joseph, Hugo Sun, Gaël Ficou, Josh Tussova. Pas de Nathan Hughes donc dans cette équipe du Racing 92. Côté palois, Eddy, est-ce qu'il y a des surprises ou est-ce que tout le monde est là?
Il y a deux absences de marque, évidemment. Je le disais tout à l'heure, Facundo Issa, transféré de Toulon la saison dernière, auteur d'une magnifique saison, qui souffrait encore mardi à Souston des ischios. Et donc, Sébastien Piccheroni ne pourra pas compter sur son troisième ligne. Et puis, l'autre grande absence, ce sera évidemment Jack Maddox, qui s'est blessé à l'épaule lors de la dernière journée face à Montauban. Et d'ailleurs, on ne comprend pas encore pourquoi Sébastien Piccheroni a fait rentrer et Gaëton et Maddox face à Montauban, alors qu'il y avait déjà 52 à 28 et que évidemment la victoire bonifiée était déjà pliée. Ce sont donc les deux grands absents côté béarnais. En première ligne, on va retrouver évidemment Kolachvili à gauche, Montoya le talonneur qui sera titulaire aux côtés de Thomas Laclaire, le pilier droit. La deuxième ligne avec Hugo Oradou aux côtés de l'immense Jimmy Maxima. La troisième ligne avec le retour de Luke Whitelock en tant que titulaire qui disputera eh bien, peut-être son dernier match si Pau venait à perdre demain soir, car il raccrochera les crampons à la fin de la saison. Aux côtés de lui, il y aura Beka Gorgadze en numéro 8 évidemment, et Sacha Zeger qui a été préféré à Loïc Credoz. La charnière avec Daniel Robson associé à Joe Simons. Les ailiers, il y aura Grand Didier à gauche, il y aura Grégoire Arfeuil à droite. Les centres, sans surprise, Fabien Broboiry, élu dans le 15 type d'RMC cette saison aux côtés d'Emilien Gaëton. Et puis à l'arrière, Théo Atisogbe, les remplaçants. Il y aura Luc Arey, il y aura Daniel Bibibiziou, Thomas Jolmes, Mickaël Capelli. Il y aura également Loïc Credoz, Thibaut Dobagna, Axel Despérès et évidemment Siate Tokolaï.
Bon, 6-2 donc pour la section paloise et bon, 5-3 pour le Racing, même si Abossi a déjà joué troisième ligne cette saison avec le Racing. Un dernier petit point sur ce match-là, Romain, ça va être aussi une grosse bataille dans les airs. Ça oui. A été la grande force de la section cette saison avec ce triangle arrière Atisogbe, Grand Didier, Arfeuil qui sont les meilleurs dans ce domaine-là en top 14. En face, il y a c'est une équipe qui est plutôt à l'aise aussi, le Racing. Max Spring est très bon sous les ballons, Wilfried Duleux aussi, Sam James aussi. Et il y a Joe Manu au centre, qui est un joueur aussi très à l'aise, très grand sur ces ballons-là. Ça va être aussi une des clés, tu penses, cette bataille aérienne.
Tu es en train de dire que c'est 50-50 là,
non,
presque,
pas du tout.
Finalement.
Non, je dis que Pau
a bien
plus.
Il y a des forces
non.
En présence, sur, effectivement.
Le Racing a rarement été en difficulté sur ce secteur-là, mais Pau sont les meilleurs dans
il fait quel temps demain
Demain, ils annoncent 34 degrés. Ils annoncent 34 degrés. Donc demain, gros cagnard.
Donc pas comme le barrage Bayonne-Clermont qui s'était joué sous des trompes d'eau normalement. On va avoir du jeu.
On devrait pouvoir avoir du jeu effectivement.
Ouais, ce sera une des clés. Moi, c'est vrai que je suis bluffé aussi par ce que fait la section paloise sous les ballons hauts. Et on en a pas parlé. Si je dis pas une bêtise, en touche aussi.
Ouais.
Ils ont quand même la meilleure touche du top 14. Avec évidemment Oradou qui facilite, je pense, beaucoup de choses dans l'alignement. Mais on parlait des avants du Racing quand même un peu plus dominateurs sur le papier. Pas oublier qu'en termes de conquête, Pau, c'est pas des peintres. Hein.
Pas du tout.
En fait, il y a plein de petits setters comme ça où effectivement, demain, chacun a son petit avantage.
Mais c'est vrai qu'on l'a beaucoup présenté comme Pau va-t-il résister au Racing. Pour moi, c'est plutôt l'inverse. C'est Racing va-t-il réussir à rivaliser avec la touche de la section paloise. Le Racing va-t-il réussir à suivre le rythme de la section. Le Racing va réussir à lutter sur les ballons hauts. Il ne faut pas oublier que Pau fait une meilleure saison que le Racing 92 quand même. Et que même si Je pense que les Franciliens sont dans leur configuration parfaite, c'est-à-dire on est outsider, on parle pas de nous, on va sur un terrain hostile et on se met en mode guerrier. Pau a quand même l'avantage d'une saison complète et de recevoir au stade du Hameau. Match à suivre donc sur RMC, bien sûr, ce samedi soir à 21h05 au Hameau. Le vainqueur croisera la route du triple champion de France toulousain à Marseille le vendredi 19 juin prochain. Le lendemain, dimanche, 21h05 là aussi, le stade Rochelet se déplace au stade français. Romain, avant de rentrer dans les détails du match, le scénario est dingue puisque ces deux équipes-là se sont jouées la semaine dernière avec une victoire rochelaise à la clé à 27-22 qui les a propulsés dans le top 6.
Ouais, et même rappelle-toi avant match, elle se demandait si elles n'allaient pas se retrouver une semaine plus tard.
Oui,
effectivement,
on
alors
déjà
qu'il y avait plein de scénarios possibles. Les Rochelais étaient 7e, ils devaient dans l'absolu pour maximiser leurs chances gagner avec un bonus.
Ça n'a pas été le cas. Mais clairement,
sur en comptant sur un faux pas de Bordeaux qui gagnerait sans bonus contre Clermont, mais finalement, alors qu'on pensait que Bordeaux était bien parti à la pause, menant largement contre Clermont, eh bien tout s'était renversé. Et dans les 10 dernières minutes, La Rochelle est allée chercher cette victoire et cette qualification. Ils sont un peu trompés dans l'approche du match, les Rochelais, en pensant tout de suite au bonus, en allant en touche, tout ça. Et finalement, bon, ils sont quand même un peu bénis des dieux parce que ils reviennent de tellement loin. Mais en fait, tellement loin. Je regardais encore le classement après 17 journées tout à l'heure, c'est-à-dire au mois de février, ils étaient 10e. Ils étaient à 13 points de Bordeaux, par exemple. C'est quand même complètement dingue. Ce qu'ont fait les Rochelais, 7 victoires sur les 8 derniers matchs, une série de 6 victoires de suite. La pièce qui tourne du bon côté. Et ça, c'est pas si fréquent ces dernières saisons, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Et donc, tu retrouves Paris la semaine d'après. Alors que ça se joue finalement à la sirène. C'est-à-dire que Paris décide de prendre la pénalité et donc de rentrer dans les clous du bonus défensif pour garder sa 3e place au classement, éviter la moitié de tableau du Stade Toulousain. Est-ce que c'est bien ou pas par rapport à Montpellier ? Je sais pas. Mais bon, là n'est pas le débat aujourd'hui. Mais du coup, en faisant ça, ils choisissent de retomber sur La Rochelle. Et c'est là où, moi, j'adore ces petits signes de destin. Tu vois, ce sera pas le même match que la semaine dernière. C'est pas possible.
Déjà, c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas au même endroit.
Déjà,
il y a plein, il y a pas le même enjeu.
Eh ben voilà, Paris était venu chercher la 2e place. Là, ils viennent chercher maintenant une demi. C'est complètement différent dans l'approche. Il y a la mêlée qui va énormément jouer, la touche aussi. Mais La Rochelle a des armes avec, on va en parler.
Ouais, justement, sur cette rencontre de la semaine dernière que tu as vue, toi, au stade, Rory Cocotte, en conférence de presse, lui a déjà mis la pression sur l'arbitre en disant ils sont à la limite dans les rucks, on attend une grosse performance de Monsieur Bralet et de son équipe.
Ouais, c'est beau.
Ça, c'est autre chose. Évidemment, non, mais pour dire que lui se sert déjà du match de la semaine dernière pour mettre la pression, toi, sur ce que tu as vu la semaine dernière, quel va être le secteur clé, la clé de ce match-là, selon toi, pour que La Rochelle réussisse un back-to-back contre le Stade français?
Pour moi, la clé, c'est la première clé, c'est la mêlée. Parce qu'on se souvient qu'à l'aller à Jean-Bouin, voilà, c'était une jeune mêlée rochelaise, hein, mais la mêlée avait vraiment ramassé.
Ça leur coûte la dernière pénalité de la gagne.
Et la dernière qui fait mal, effectivement.
Terrible.
Au retour, plus équilibré, 3 pénalités de chaque côté, 4 bras cassés au total, mais 3 contre La Rochelle. Sauf que c'est quand même Paris qui a gagné les mêlées les plus importantes. J'ai le souvenir notamment d'une mêlée à 5 mètres de l'embute du Stade français. Ils sont à 7 à pousser contre 8 et ils remportent cette mêlée alors que La Rochelle avait choisi la pénalité en mêlée. Donc non, je pense que le Stade français conserve largement l'ascendant sur cette phase-là. Maintenant, la clé pour La Rochelle, ce sera une fois qu'ils ont résisté. Ben, c'est un peu comme Pau finalement. C'est une fois qu'ils ont résisté devant, c'est d'écarter le ballon.
Attention,
pour moi,
alors,
cette équipe de La Rochelle me fait penser à Pau.
C'est que le Stade français joue beaucoup plus que le Racing. Le Stade français a pour moi beaucoup plus d'armes derrière collectivement et a bien fait évoluer son jeu par rapport à il y a 2 ans quand ils sont en demi-finale. On en reviendra sur le Stade français, mais je te laisse finir, mais je trouve que c'est moins marquant la différence de style entre les deux équipes.
Bien sûr, je te dis pas forcément écarté pour on va dire tuer physiquement le Stade français, mais parce que aujourd'hui j'ai bien l'impression qu'ils ne sont entre guillemets capables que de ça, les
oui,
Rochelais.
D'accord.
Alors attention, hein, c'est pas leur faire injure.
Non, non, bien sûr.
Mais devant, on en parlait encore dans le Moscato Show, ils ont
C'est vrai que devant, bah, ils sont plus aussi dominateurs qu'avant. C'est pas un constat à l'instant T, attention, hein, c'est un constat qu'on fait depuis 2 ans. Mais n'empêche que Skelton n'a quasiment pas joué cette saison, Antonio n'a quasiment pas joué cette saison et c'est terminé pour lui avec La Rochelle. Danti n'a pas joué. En fait, tous les big men sont partis devant. Il reste plus que Bourgarit, sauf que Bourgarit, bah, il joue presque jamais parce qu'il est tout le temps blessé. Aldrit n'a plus la même façon de jouer qu'avant, donc c'est plus il fait plus partie de ses big men. Il n'y a plus de big men. Donc pour moi, la seule possibilité pour La Rochelle, c'est d'aller dans cette filière dans laquelle, bah, je trouve qu'ils commencent à exceller quand même depuis quelques semaines, parce qu'ils ont du vécu collectif, des repères. C'est de déplacer le ballon. C'est de déplacer le ballon et de faire jouer leurs flèches et leurs créateurs, leurs dynamiteurs, le Garek, la Givala et Niniashvili. Et ces trois-là sont en train de contaminer tout le monde, des Noël, des Favre, même les avants. Et c'est là où je dis que pour moi, La Rochelle aura tout intérêt à essayer ce jeu-là. Ils ont rien à perdre, en fait, à essayer ce jeu-là demain.
Est-ce que tu crois en cette mue express du Stade Rochelais et tu penses qu'ils sont capables de gagner au Stade Français avec ce style de jeu que finalement ils pratiquent depuis très peu de temps?
Ben alors moi je pense vraiment que La Rochelle va partir sur un pied d'égalité face au Stade Français, mais c'est vrai que j'avais en mémoire l'année dernière lorsque Clermont s'était qualifié et avait disputé son barrage sur la pelouse de l'Aviron Bayonnais, les Clermontois étaient arrivés vraiment à doger complètement cramé et Bayonne avait roulé sur son adversaire. Romain, est-ce que avec cette deuxième partie de saison et ces deux derniers mois de compétition qui ont quand même vu La Rochelle revenir quasiment de nulle part, est-ce qu'ils ne vont pas arriver quand même un petit peu cramé? C'est mon interrogation.
Ta question, elle est légitime.
Parce que physiquement, ça risque quand même à un moment donné de peser sur les épaules des hommes d'O'Gara. Mais la dynamique est belle. Et encore une fois, sur le papier, on n'a pas encore détaillé les compos. Mais c'est vrai que La Rochelle a de quoi faire le match avec le Stade Français. C'est juste cette dimension physique-là qui pourrait peut-être un peu m'inquiéter pour les Rochelais.
À la dimension physique, une dimension mentale. Peut-être, Romain, je te pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas ce sentiment de se dire c'est déjà un miracle qu'on soit là, on est arrivé presque?
Non. Non, ça, je pense qu'il n'y a aucune crainte par rapport à ça. T'as quand même des mecs dans le groupe qui ont soulevé deux Coupes d'Europe. C'est des animaux qui sont animés par cette envie d'aller au bout. Hein. Rappelle-toi qu'ils voulaient créer une dynastie et ils se sont cassés la gueule. Ils ont cette expérience-là. Mentalement, pour moi, il n'y a aucun... Au contraire, habité par un supplément d'âme incroyable. Enfin, ils sont revenus du diable Vauvert, comme on dit. Enfin, je veux dire, c'est inespéré.
Plus personne ne dit ça, mais tu peux le dire.
Ouais, mais à l'ancienne, tu vois. Mais pour répondre à Eddy, ta question elle est tout à fait légitime. Et figure-toi que c'est une question qu'on pose au Rochelais depuis maintenant quelques semaines. Parce qu'on voit bien ce qui est en train de se passer. C'est que O'Gara, il a beau dire, il l'a dit plusieurs fois cette saison, arrêtez avec votre équipe type, c'est fini l'équipe type. Non, c'est pas fini. Dans les faits, quand il a besoin de résultats, il s'appuie sur le même groupe. C'est factuel. Le Garek et Astoy, ils enchaînent. Niniashvili, c'est pareil. Enfin, je veux dire, les Aldrit, c'est pareil. T'en as plein qui ont un temps de jeu qui est démentiel. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont tellement été déplumés cette saison. Ils ont construit un hôpital, hein, La Rochelle, au club, tellement il y avait de blessés. Que t'as aussi beaucoup de joueurs qui reviennent avec beaucoup de fraîcheur. Je pense à des Boudéan, par exemple.
Et que quand t'es blessé, que tu te reposes, de toute façon, dans ce championnat.
Donc. Ouais. Non, mais c'est clair. Et ça peut faire aussi la différence pour essayer d'enrayer un peu cette petite musique qui me fait dire qu'effectivement, à un moment, aïe. Ça risque de
péter, mais quand, en fait, c'est ça la question.
Alors, ça tient. Pour le coup, je trouve qu'ils sont mieux préparés physiquement que la saison dernière. La saison dernière, ils sont arrivés vraiment, mais alors ils s'étaient même pas qualifiés parce qu'ils étaient tellement sur les rotules en arrivant la dernière journée à Pau, où ils avaient leur destin entre leurs mains. Hein. Mais ils étaient cramés, parce que là, ils n'avaient jamais opéré de rotation de la saison quasiment au Gara, ou alors que quand il était obligé. Cette saison, il a retenu un peu la leçon. Mais là, on voit qu'il s'appuie sur le même groupe. Moi, j'ai envie de te dire, ce que je ressens, c'est peut-être un truc d'instinct, je sais pas, truc que tu vois sur les visages, une lecture de ce que je ressens là en voyant les mecs, c'est qu'ils sont portés par un truc qui est assez inexplicable.
Bah, qui,
ça peut passer face au Stade français.
Est-ce que ça peut ne pas être expliqué finalement par cette fin de carrière de Mignatonio, par toutes les blessures, par ce qu'ils ont vécu cette saison, par le fait que tout le monde voyait Ronan O'Gara partir, mais que finalement il reste et qu'il a repris le groupe, ou que tu nous as dit qu'il avait jamais
alors,
perdu
Moi je mets mon veto sur le fait que tout le monde voyait Ronan O'Gara partir.
Non,
au club, tout le monde savait très bien qu'il partirait pas.
Non, je dis que tous les observateurs
de l'extérieur
disaient, quand est-ce que Ronan O'Gara va lâcher. Et en fait, il a pas lâché, et les joueurs sont restés avec lui. Enfin, il y a plein de symboles, je trouve, forts dans cette saison rochelaise, qui montrent qu'en fait, ils sont jamais démunis, et ils ont plein d'éléments très durs sur la saison, qui font que maintenant, ils ont peut-être créé quelque chose de particulier.
Tu sais quoi ? Alors, ça me fait penser, toute proportion gardée, hein, évidemment, mais au discours un peu d'Hugo Mola la saison dernière, en soulevant le Brennus, Toulouse a vécu des drames aussi la saison dernière.
Saison en cauchemar. Une saison
cauchemar, et ça les a transcendés. Il n'y a pas eu de drame à proprement parler à La Rochelle, même si on a eu l'impression que l'arrêt de carrière de Wignatonio, on a l'impression qu'il était mort le jour où ça a été annoncé, tellement ça a été une déflagration immense. Les réactions des gens, on a l'impression qu'on était face à un deuil. Il n'est pas mort, il va bien, Wignatonio, et heureusement pour lui, et tant mieux pour les Rochelais. Mais ça a été vécu comme un tel traumatisme par toute une ville, par tout un club, par des coéquipiers qui étaient avec lui depuis plus de 10 ans. Je pense à des Botia par exemple, même des Sazi qui est encore dans les parages puisqu'il est dans le staff, que y a un supplément d'âme qui est incroyable. Et le mix avec les nouveaux arrivants, moi, me fait dire que cette équipe peut faire très très mal. Maintenant, j'ai du mal à la voir aller franchement plus loin que les demi-finales.
Ouais.
Parce que s'ils passent Paris, ils vont se retrouver contre Montpellier dans un registre où, pour moi, le fait d'envoyer du jeu ne suffira pas. Ils n'ont pas les armes devant pour aller plus loin.
Mais en tout cas, juste pour terminer sur ça, j'ai bien aimé ce que tu as dit. Ces deux Coupes d'Europe à emporter en 2022-2023, La Rochelle aujourd'hui la culture de la gagne. Donc sur un match de phase finale, les Rochelais qui s'étaient déjà imposés, je crois, il y a 2 saisons en barrage sur la pelouse de Toulon. Enfin, ils sont capables d'aller faire un pet à l'extérieur et pourquoi pas sur cette pelouse du Stade Français. Encore une fois, je crois que ce sera vraiment très très équilibré, comme ce sera d'ailleurs équilibré entre Pau et le Racing. Et je le dis aussi, on en salive d'avance, hein, de voir ces deux oppositions de style demain soir et dimanche soir.
Mais tiens, je rebondis juste sur ce que tu me demandais, Pierrot, c'est à savoir si maintenant ils sont pas arrivés, tu vois, il n'y a pas ce risque de décompression. Je te propose d'écouter à ce sujet Greg Aldrit cet après-midi en conférence de presse, qui lui ne veut même pas entendre parler de relâcher la pression.
Ça fait depuis 2 mois qu'on a tout à gagner quand même. Tout le monde nous disait que ça va être compliqué d'accrocher les 8. Maintenant on rentre dans des phases finales et je t'avoue que j'aime pas cette phrase de on a rien à perdre ou... Parce que lundi, si on a perdu, on sera aussi déçu que si le Stade français a perdu. C'est des phases finales, on ne les joue pas pour les perdre. Et quoi qu'il se passe dimanche soir, il y a quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui est déçu. Il n'y aura pas quelqu'un qui sera content parce qu'il a perdu un barrage. Donc nous, on veut jouer des phases finales pour gagner nos matchs. On prépare ça pour le gagner. Et si on gagne, on passe à l'étape d'après. Si on perd, eh bien, il faudra le digérer et repartir au travail, quoi. Mais je veux dire, il n'y a pas de satisfaction dans la défaite.
Ouais, c'est pas un discours de joueur qui a terminé sa saison avant ce match face au Stade français. Tu parlais de ce supplément d'âme du Stade Rochelais, Romain. Pour d'autres raisons, le Stade français l'a un petit peu aussi. Parce que on l'a détaillé d'ailleurs dans un papier sur RMC Sport, Romain, mais ce sont deux équipes qu'on n'attendait pas là du tout cette année. Le Stade Rochelais, parce qu'il y a eu ce gros creux. Et puis le Stade français, parce qu'ils ont vécu un enfer la saison dernière, qui termine aux portes des barrages vers la Pro D2. On a une impression au Stade français qu'il ne s'est rien passé, que rien n'a changé. Il y a juste Rory Cocotte qui est arrivé, Tawera Carbarlo, pour un peu grossir le trait. Sauf que c'est beaucoup plus sain que la saison dernière. Ils ont remis plusieurs choses d'aplomb, les Parisiens. Déjà, le staff est clair. C'est-à-dire que l'année dernière, rappelez-vous, Karim Ghezal part à l'automne. Laurent Labitte part au début de l'année 2025. On ne sait pas ce qui va se passer pour Paul Gustard.
C'est Bagdad, en
c'était n'importe quoi en interne. Et on se disait, c'est quand même pas Paul Gustard qui va être nommé. Eh bien si, Paul Gustard est nommé. Paul Gustard ensuite est annoncé à Leicester. Finalement, il reste et il a repris en main cette équipe. Les joueurs l'aiment beaucoup. L'arrivée de Rory Cocotte a fait beaucoup de bien aussi dans l'exigence, dans le fait de dire les choses frontalement aux joueurs. Ça, pour le coup, vous pouvez faire confiance à Rory Cocotte. Le jeu a évolué aussi du Stade français, avec un jeu beaucoup plus aéré, avec le rôle de Louis Carbonel qui va mieux lui aussi dans sa tête et qui est mieux dans ce club-là et qui a pris en main le jeu. Il nous racontait dans un entretien à RMC qu'il a fallu aller dire aux avants du Stade français que c'était plus eux qui décidaient de tout au club. et qu'il fallait faire confiance aussi aux trois quarts, que les avants ont fini par l'accepter, bien aidé par Tawera Carbarlo. Carbonel nous disait c'est plus simple quand il y a un champion du monde de 36 ans qui va expliquer aux avants que maintenant c'est comme ça qu'on joue au Stade français. Et
ça aide
évidemment. Les avants sont énormes cette saison, évidemment, en mêlée fermée, en touche aussi et dans le jeu courant. Et c'est un groupe, Ray Cocotte nous le disait tout à l'heure, il dit il y a quelque chose que j'ai du mal à définir dans cette équipe, mais c'est un groupe qui est très fier de porter ce maillot-là, qui a beaucoup de confiance en eux et en le projet. Et c'est un club particulier, le Stade français, parce qu'on sait qu'à Paris, le rugby, c'est pas pareil que dans le Sud-Ouest ou qu'ailleurs en France, et qu'il faut des mecs très investis dans le maillot pour que ça fonctionne. Et c'est le cas, il y a des cadres très importants dans cette équipe. Je pense aux deux frangins à l'OMIL, je pense à Paul Gabriel, à Romain Briat, à Zago qui fait une belle saison, à Carbonel donc, à Jérémy Ward, Léo Barré. C'est des mecs qui aiment ce club-là et qui ont fait en sorte que ça se passe mieux cette saison. Et ça a été beaucoup plus linéaire que le Stade français. Ils se sont installés très vite dans les 6. Le jeu a été de mieux en mieux au fur et à mesure de l'année. Eddy, tu le disais, ça va être un match très tendu, très équilibré. Malgré tout, sur la régularité de la saison, on peut se dire que le Stade français a un peu plus de certitude peut-être.
Ah ouais, certainement. C'est vrai que tu évoquais cette mêlée fermée, peut-être l'une des meilleures mêlées du championnat derrière celle de Montpellier.
C'est celle qui raconte le plus de pénalités, hein, je crois.
Ouais, bon, moi c'est kiff-kiff. Montpellier dégage une impression de puissance parce qu'on dit ils ont deux premières lignes qui pourraient être de quasiment au niveau international les deux. Au Stade français, faut se coltiner les deux frangins,
ouais, non, mais bien
les
sûr,
deux géorgiens derrière. C'est épais aussi.
C'est très épais.
On joue dans la même cour, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais non, mais encore une fois, ce sera peut-être du 50-50, même si encore une fois, Paris jouera à domicile, donc aura l'avantage du
attention,
terrain.
Il y a beaucoup de Rochelais, je pense. Hein.
Ouais, il y aura plus de Rochelais à Paris que de Franciliens au Stade du Hamon.
Ça,
je te le confirme. Mais c'est vrai que cette équipe parisienne est très très surprenante, hein, au même titre que sur ce rush final de La Rochelle. Quand même, Paris qui a tutoyé, qui à un moment donné, hein, lors de cette dernière journée de saison régulière, a été quand même en position de se qualifier directement pour les demi-finales lorsque Montpellier était mis à mal sur la pelouse du Loup. Donc franchement, en tout cas, c'est quatre équipes. L'équipe, pour moi, font plaisir à voir. On attendait Paris et Pau au vu des résultats de la saison. Oui. Moins le Racing et La Rochelle, mais encore une fois, Paris aura quand même peut-être un petit peu les faveurs des pronostics. Quoique, je me méfie quand même de ces Rochelais. Quand
mais
même,
le Stade
même,
français, hein. Pour parler de leur régularité sur la saison, c'est l'équipe qui a pris le plus de bonus cette année, plus que le Stade toulousain. Vrai. Ils sont à 17 cette saison, dont 8 à l'extérieur.
Ils n'ont jamais pris d'éclat à l'extérieur.
Ils n'ont jamais lâché un match. À Montpellier,
tout le monde a pris un éclat à Montpellier.
Mais ils prennent un éclat, mais sans paumer le match, c'est-à-dire juste ils tombent sur une équipe qui est plus forte à l'instant T et qui leur fait très mal, et au Racing ils prennent un éclat parce qu'ils envoient globalement l'équipe B. Sinon au Stade toulousain ils sont pas loin, à Bordeaux ils vont gagner, au Stade Rochelais ils étaient pas loin la semaine dernière, ils ont toujours été dans le coup, à Toulon ils vont gagner aussi cette saison, à Clermont ils passent tout près, à Bayonne ils passent tout près. C'est une équipe que Paul Gustard a décidé au début de l'année, vu la saison dernière on peut pas se permettre de calculer en fait et de choisir les matchs. Donc la Challenge Cup on la met sur le côté, on s'en fiche. En revanche, chaque match de top 14, il y avait une équipe qui était compétitive sur le terrain. Un peu comme le Racing d'ailleurs, c'était un peu la même vision de dire, vu notre saison l'an dernier, on ne peut pas se permettre de dire on va tout gagner à la maison et puis paumer un ou deux matchs à l'extérieur. C'est pas possible. D'ailleurs, ils n'ont pas tout gagné à la maison puisque Toulouse est venu gagner dans un match qui a été horrible et qui a d'ailleurs servi de déclic sur le fait qu'il fallait qu'ils osent un peu plus balle en main. Et il y a eu ce match nul contre le Racing. Mais la constance de cette équipe-là et puis l'évolution de leur jeu, j'en parlais rapidement, mais avec l'avènement de Noah Néné, avec l'apparition de Tani Vili qu'on n'attendait pas du tout à ce niveau-là, avec la charnière qui est compétitive, Romain, un peu comme La Rochelle finalement, le Stade français a fait évoluer et reste très basé sur des avants dominateurs, mais c'est l'équipe, la deuxième meilleure attaque du championnat et une équipe qui marque beaucoup beaucoup d'essais.
Ça va être presque fou ce que tu dis, parce que j'ai encore en mémoire cette image du Stade français demi-finaliste il y a 2 ans, qui est taxé d'une équipe... avec un rugby minimaliste,
2024, c'était horrible,
grosse défense, ça fait partie du rugby.
Bien sûr, non mais à voir, je veux dire, évidemment.
Ouais, c'est horrible à voir, mais voilà, ça fait partie du jeu. Moi, je suis bluffé par cette transformation du Stade français. Alors, dans le contenu dont tu parles, et puis pour revenir sur ce que tu disais avant, c'est dans les têtes, quoi.
Bien sûr, mais c'est dingue.
Comment tu fais pour renaître de tes cendres comme ça ? D'ailleurs, ça ne concerne pas que le Stade français pour le coup, parce que il y a l'exemple. Bon, alors c'est pas la même chose, mais le Racing a quand même vécu une saison très galère la saison dernière. Ils ont pas joué le maintien jusqu'au bout, mais c'était pas loin non plus.
Dur. Ouais, bien sûr.
Montpellier qui renaît de ses cendres aussi. Moi, je trouve ça fou
comment tu peux renverser la vapeur et la situation en l'espace d'une intersaison et
l'importance
d'une
de la confiance dans le rugby. C'est qu'en fait, quand ça fonctionne bien en début d'année et que c'est sain dans le club, et bah, tout de suite, t'enchaînes quelque chose de positif. Et on peut écouter justement Léo Barret qui compare cette année 2024 où il était là, hein, à Bordeaux pour cette demi-finale, et cette saison. Quelle est la différence entre ces deux années?
Je ressens que cette saison est complètement différente de celle de la demi-finale, de par le fait que ce ne soit pas les mêmes joueurs qui sont sur le terrain. On ne peut pas comparer les deux années, on n'avait pas le même style de jeu proposé. On avait un style plutôt bon sur la conquête et bon sur l'occupation sur l'année de la demi-finale. Cette année, on essaie de bouger un peu plus le ballon. Donc maintenant, c'est sûr que cette année, si vous me posez la question, je préfère prendre du plaisir cette année. Effectivement, je touche un peu plus de ballon. Les trois quarts touchent un peu plus de ballon, donc il y a un peu plus de plaisir que sur l'année de la demi-finale.
C'est le symbole, hein, Léo Barret, aussi, de ce nouveau jeu parisien. Eddy, avant, il était un peu condamné à des exploits. On attendait qu'il fasse quelque chose. Maintenant, c'est presque un deuxième ouvreur avec Louis Carbonel. C'est lui qui vient jouer rapidement les pénalités, s'intégrer dans comme un deuxième ouvreur presque dans le système. Comment tu vois, toi, cette évolution dans le jeu parisien?
Elle est magnifique, et c'est vrai que tu as raison de le préciser, ça change tout quand même, parce que on avait l'image d'un Léo Barret feu follet qui était capable évidemment d'aller marquer des essais, de relancer, mais là, dans le jeu ça a complètement changé, et Paris ne s'en porte que mieux. Et puis d'ailleurs, je t'écoutais tout à l'heure quand tu donnais les stats, les bonus défensifs remportés par les bonus tout court, quand même, lorsque l'on regarde le classement de ce top 14, Toulouse a remporté 18 victoires, Montpellier 17 victoires, Pau 17 victoires, et Paris n'en a remporté que 15 matchs cette saison. Le Racing est devant.
Il nous le rappelle souvent, Patrice Collazo, ils ont plus gagné que le Stade français.
Gagné que le Stade français. La Rochelle est au même niveau que le Stade français. Clermont aussi au même niveau que le Stade français. Ce qui veut dire que cette équipe parisienne n'a quand même rien lâché, avec du beau jeu. On parlait tout à l'heure de la mêlée. C'est vrai que ça fait plaisir à voir. C'est peut-être surprenant, mais en tout cas, ça fait plaisir à voir. Et encore une fois, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Enfin, on a compris un petit peu, mais je pense vraiment que Paris, ça va être assez fou quand même. Hein. Ce match-là, vraiment, j'aurais du mal à donner un favori, même si encore une fois, on rappelle à nos auditeurs que Paris jouera son barrage à domicile à Jambon.
Et ça sera normalement plein. On est à un peu plus de 18 000 là pour l'instant sur les 20 000 que peuvent accueillir Jambon. Donc, je pense que ça va se remplir d'ici dimanche. Romain, on attend une marée de Rochelais en terre parisienne.
Je pense forcément que
c'est facile, le trajet c'est facile.
Ils ont fait chauffer les téléphones là depuis le début de semaine, parce que je pense qu'ils n'avaient pas forcément anticipé ce scénario, mais là ils sont réveillés, les Rochelais. Bah oui, c'est que du bonus pour eux, une semaine d'excitation en plus, et ils commencent à reprendre du plaisir. Je la sens, cette notion de plaisir chez les supporters Rochelais, que je ne voyais plus depuis 3 ans, pour être gentil. Il n'y a plus une critique sur le jeu actuel de La Rochelle parmi les supporters. Tout le monde se régale parce que c'est tellement inattendu. Donc oui, il y aura du monde. Je ne sais pas si ça va les pousser ou quoi, mais c'est vrai que depuis 2 matchs à domicile, j'ai rarement entendu une ambiance comme ça à De Flandre depuis tellement longtemps, même bien avant les 2 titres de champion d'Europe. Ouais. Il se passe un truc entre cette équipe, son public. Il se passe un truc dans l'équipe. C'est très difficile à lire d'ailleurs et à mettre quelque chose. C'est pas rationnel en fait. J'ai l'impression est en train de se passer.
Avec des raisons différentes, on est vraiment sur 2 parcours similaires, parce que je peux vous dire la différence dans les visages entre l'année dernière, quand tu croisais les joueurs parisiens au camp des loges, où il n'y avait pas un sourire, et là la conférence de presse, on n'a quasiment pas pu la finir parce qu'en fait tous les joueurs attendaient de faire une réunion dans la salle, et ça gueulait dans le couloir, ça rigolait, ça se vannait, et on voit quand un club comme ça est à l'aise, les joueurs rentrent alors qu'on est encore là, ils discutent avec nous machin, ils nous piquent le matériel, enfin tu vois, il y a un côté un peu bonne ambiance, tu sens que le groupe vit très bien, exactement, et que tout le monde se porte vers le haut et que tout le monde se fait confiance aussi. Et je trouve que quand tu parlais des visages Rochelais, il y a aussi une métamorphose à Paris qui est assez dingue sur ce plan-là.
Mais ça se passe aussi comme ça, Pierrot, je te coupe, à la section paloise, hein, quand même, depuis le début de la saison, avec cette ambiance bon enfant. Vraiment, tout le monde se tire vers le haut, pas de clash. C'est relativement sain. Mm. Et ça fait plaisir à voir et ça fait plaisir à suivre, évidemment, quand on est journaliste et qu'on suit un club comme ça. Il faut vraiment le souligner.
Romain, on n'a pas encore les compositions d'équipe officielles, mais on a quelques petites idées assez précises de à quoi vont ressembler à quoi vont ressembler les équipes.
Romain,
soir.
Tu penses bien que tu vas pas lui faire à Romain quand même. Non, 40
t'inquiète, ans. J'ai vérifié avant, je lui ai dit c'est bon, tu l'as la compo. Est-ce que tu veux nous donner la compo très 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 probable du Stade Rochelais sur la pelouse du Stade Français?
Bon, il y aura pas grand changement par rapport à la semaine dernière, si ce n'est quand même deux retours, mais très très importants, en l'occurrence Oscar Jégou et Noël. La première ligne, c'est Wardy Latous Clavy, exactement celle qui a été alignée contre le Stade Français la semaine dernière. Kanté Samba Kankorié, le même 5 de devant en fait. Paul Boudéan, Aldrit en troisième ligne et donc Oscar Jégou. Et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle pour La Rochelle, déjà parce que il est essentiel dans ce jeu de mouvement avec son profil d'avant ultra mobile et qui adore en plus jouer en pivot et coller au ballon. Le Gareth Castoy, autant ils ont quasiment pas joué de la première partie de saison ensemble, autant là
ça roule.
C'est incroyable la manière dont ils enchaînent. Niniashvili et Noël sur les ailes. Noël, on n'en parle pas beaucoup cette saison, mais il fait une saison peut-être la meilleure de, je vais pas dire de sa carrière, mais en tout cas la meilleure de sa carrière
et
à La Rochelle.
Très fort sur TikTok
ça,
aussi.
De loin.
Je le vois fréquemment. Il nous raconte sa petite vie à La Rochelle.
Il fait des belles vidéos quand même. C'est intéressant. mais il trouve le temps d'être bon, de se préparer pour être très bon. Noël pour le coup, et comme je disais tout à l'heure, il adore jouer avec ses gamins là, qu'on voit de jeu dans tous les sens. Favre Laguivala, ce sera la paire de centre, et puis à l'arrière, West, mine de rien, qui s'installe.
Futur parisien.
Il va retrouver Carbarlo pour une saison. La saison prochaine sera la doublure de Carbonel. Et puis La Rochelle qui insiste avec. Tu parlais de système à deux ouvreurs chez le Stade français.
C'est un peu pareil.
Ça, c'est commun. Mais c'est moins commun à La Rochelle. Ça commence à le devenir. Et ce sera intéressant d'ailleurs de voir un peu comment ça va se passer des deux côtés. Mais voilà pour le 15 de départ. Et puis sur le banc, on aura des garçons comme Penvern, Timo, Botia,
Timo qui retrouve le Stade français.
Aussi
c'est assez dingue.
Il y a pas mal, il y a le match des ex parce que t'en as aussi pas mal côté Stade Français des anciens Rochelais,
Carbarlo,
Tanga notamment, Paiva aussi
qui ne joue pas
donc voilà pour le 15 de départ de La Rochelle. Restait une incertitude peut-être sur Mathias Haddad qui, on va rassurer tout le monde, s'est remis de sa commotion assez sévère qu'il avait subi au Racing début mai. C'est simplement une infection au coude qui gêne son retour sur les terrains. Sinon, tout le monde est là, mis à part Dylan Leeds qui, lui, est encore à l'infirmerie.
Côté parisien, on avait dit que la semaine dernière, ils avaient envoyé une équipe compétitive, mais il manquait du monde quand même très important. C'est peut-être pas des noms qui sont hyper marquants, mais ils sont très importants dans le système parisien, c'est-à-dire le capitaine Gabriel, Johan Tanga, le numéro 8, Alaï Fonoy, le troisième ligne que tout le monde au club décrit comme le meilleur joueur du club.
Il est énorme.
Et Louis Carbonel, le demi d'ouverture. Ça donnerait donc pour la composition d'équipe les deux frangins à l'OMIL, au pilier, à la place de Melikidze et Abramijvili d'ailleurs qui est out pour ce match. C'est Iscaro qui prendra place sur le banc.
Trois mois.
Nico Terra au talon, Gabriel Gazago en deuxième ligne, Alaï Fonoy, Briat, Tanga. C'est moins sexy que la troisième ligne de La Rochelle, mais je peux vous assurer que c'est pas drôle du tout. Entre Alaï Fonoy, donc une brute épaisse, Briat qui parle dans le bec de tout le monde sur le terrain, et Johan Tanga qui a retrouvé, je trouve, un niveau très très intéressant. On en parlait dans l'équipe type, même s'il a pas été nommé dans cette équipe type RMC, mais je trouve que c'est pas un 8 normal, c'est un 8 qui, avec ses courses, avec ses appuis, trouve des espaces, arrive à ouvrir des portes pour ses coéquipiers. Et il a eu des problèmes perso l'an dernier, et c'est beaucoup mieux cette année. Il est libéré à La Rochelle, au Stade Français. Il joue sa troisième phase finale avec trois clubs différents.
C'est juste petite parenthèse, tu parlais de Briat qui parle dans le nez de tout le monde. Donc c'est bien le Neymar que décrivait Ronan O'Gara la saison dernière.
En tout cas, dans le sondage de nos confrères de milieu olympique, c'était lui qui avait été le deuxième plus cité, me semble, parmi les joueurs de top 14 sur qui parle le plus sur le terrain. Il est très marrant, Briat, mais je pense qu'il peut assez vite être insupportable sur un terrain de rugby. Pour la charnière, Carbarlo, Carbonel, évidemment. Néné qui est privilégié à Tanivili au centre du terrain. C'est lui qui portera le numéro 12 aux côtés de Jeremy Ward. Joe Marchand sur l'aile gauche, Dakuaka sur l'aile droite et donc Léo Barré à l'arrière. Et sur le banc, on aura donc Pérez, Blanc, Iscaro et Medikidze pour la première ligne, Pesanti et Irigoyen pour terminer le pack, et donc un banc en 5-3 avec Paul Abadi, Tanivili, même si on a vu que Tanivili désormais était également troisième ligne, et Samu et Zeala pour compléter le banc. Pour terminer ce podcast, messieurs, on a l'habitude de faire un joueur à suivre qu'on connaît peu dans la saison, sauf que là désormais on arrive en barrage et on connaît tout le monde pour ces équipes-là. Romain, et après Eddy, je viendrai vers toi, est-ce que tu as un joueur à La Rochelle qui pour toi, ou ailleurs d'ailleurs dans un de ces matchs-là, qui va être déterminant dans la réussite ou non de son équipe?
Allez, au hasard, La Rochelle.
Oh, au hasard, le Garek, au hasard.
Non, moi, un mec qui me fait dresser les poils depuis quelques semaines, que je trouve incroyable, c'est Semili Aguivala, qui est en train de prendre une dimension complètement folle. Il a longtemps été blessé cette saison, il est revenu au printemps, et lui qui jouait en Pro D2, dont on annonçait le plus grand bien, notamment Rémi Thalès, qui l'a retrouvé à La Rochelle. Mais quel joueur! Quel Fidjien qui est en train de se faire un nom là, parmi... Il n'a pas encore été convoqué par sa sélection nationale.
Il y a du monde en même temps à ce poste-là.
Il y a du monde. Mais attends, mais t'as vu le bestiau? T'as vu les matchs qu'il fait? Il a une activité qui est ahurissante, offensivement comme défensivement. Et il fait mal. Il ne fait que 95 kilos, mais qu'est-ce qui fait mal au contact? Et ouais, moi je trouve que c'est le maillon qui manquait à La Rochelle avec Le Garec et Nina Julie pour finir de provoquer cette étincelle là du jeu qui est en train de rendre un peu fou tous les Rochelais sur le terrain. Et voilà, il fallait le troisième de la bande, il est là, et depuis qu'il est là, bah bizarrement ça marche, tu vois. Non mais c'est vrai.
Et moi pour ce match là, je vais prendre son vis-à-vis sur le terrain, Jeremy Ward, dans un style complètement différent de Semih Aguivala. Et Jeremy Ward, c'est devenu un des mecs très importants du Stade français, lui, pour le coup, dans cette équipe-là. Il est l'un des vice-capitaines, c'est le capitaine de la défense surtout. Il ne fait pas de bruit, ce n'est pas le centre sud-africain qui détruit des défenses, mais moi, je le trouve incroyable sur le terrain en termes de lecture défensive. C'est un des tout meilleurs. En général, vous allez voir, le match dimanche, les 5 premières minutes, il découpe 2 mecs et Briette en découpe 3. En général, c'est comme ça qu'un match du Stade français démarre pour se mettre en confiance. Non, mais défensivement, c'est un des tout meilleurs. Il marque beaucoup d'essais aussi. Et je trouve qu'avec Noah Néné, ils sont hyper complémentaires tous les deux. C'est-à-dire que Néné, on a le côté un peu faux-follet, hyper puissant. Enfin, faux-follet, regarde la taille du faux-follet, mais hyper puissant, qui est capable de faire des différences tout seul, mais parfois avec des petits errements défensifs. Et Ward à côté, c'est tous les week-ends en 8/10, et donc il fallait le mettre en avant aussi parce que c'est pas le plus flashy, mais je trouve que là on a un duel Aguivala Ward dans le style qui est assez dingue aussi. On fait un petit retour rapidement sur le Racing Po. Eddy, cette équipe paloise, est-ce qu'il y a un joueur qui pour toi va être prépondérant dans la réussite de la section?
Ouais, alors j'ai nommé Joe Simons. Alors je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'était évidemment le maître à jouer de la section paloise la saison dernière, lui qui avait quand même gagné avec Exeter la Coupe d'Europe et le titre de champion d'Angleterre à l'âge de 21 ans. Et c'est vrai que il a enchaîné les pépins physiques dès le mois de novembre, remplacé et très très bien remplacé. On en a parlé évidemment dans les podcasts par Axel Desperes, qui a tenu la baraque à la section paloise au poste de numéro 10 avec un rôle de buteur évidemment. Mais Joe Simon s'est revenu d'ailleurs sur la pelouse de La Rochelle, et depuis il a repris évidemment son rôle de leadership, lui qui est le maître à jouer de cette formation paloise, et Sébastien Piccheroni l'a dit, on ne peut pas se passer d'un Joe Simons, de surcroît lorsque l'on vise les phases finales, et pourquoi pas d'aller encore plus loin, pourquoi pas aller en finale de ce championnat de France. Donc à suivre Joe Simons, qui sera encore une fois, on le rappelle, l'un des éléments majeurs de cette section paloise demain soir. Au but, il est tout simplement royal et il revient vraiment à un très très bon niveau. Est-ce qu'il sera au niveau justement de ses phases finales? C'est la petite interrogation, mais j'ai vraiment envie de suivre encore une fois le joueur britannique qui revient vraiment plein pot, et ça tombe bien pour Pau à l'heure de ces barrages.
Et je l'avais trouvé excellent, notamment sur la pelouse du Stade français, pour le match face aux Parisiens. Côté Racing, juste rapidement pour terminer, je mettrai Romain Taofifenua en avant, le grand Tao, qui a pêché un peu la saison dernière, qui avait du mal et qui a eu du mal en bleu aussi en novembre, où on se disait, bon, là, Romain Tao, ça devient compliqué. Il y a 35 ans, le deuxième ligne, mais il finit très fort la saison en étant très bien géré par le staff du Racing qui en général lui fait jouer 45 minutes, puis il se repose, puis il rentre les 10 dernières minutes. Ils pourront plus faire ça d'ailleurs la saison dernière avec les 8 changements maximum.
La saison prochaine.
Mais Patrice Collazo nous l'a rappelé, je pense à juste titre cette saison. Il y a beaucoup d'équipes de top 14 qui aimeraient avoir ce profil-là, dont on dépeint souvent les défauts. Trop lent, trop lourd, il se déplace pas assez, il fait des fautes, mais pour user des défenses, il n'y a pas mieux qu'un bulldozer de cette taille-là. Et j'en parlais tout à l'heure, mais il sera capitaine. Et Patrice Collazo blague avec lui. Ils s'aiment beaucoup, tous les deux. Ils s'étaient connus du côté de Toulon. C'est deux taiseux travailleurs des avants. Et il nous disait, il descend en premier du bus. Il emmène toute l'équipe derrière lui. Je ne lui laisse pas le choix pour montrer que c'est le leader. Il y a un peu deux capitaines dans cette équipe. Il y a Max Spring qui est... l'ailier feu follet qui parle avec de l'émotion, qui parle beaucoup, qui essaie d'haranguer tout le monde. Et en face, t'as la force tranquille Tao. Collazo nous a dit, c'est un mot, pas deux, un mot action. Voilà, un mot. Et ensuite, sur le terrain, il s'y file. Et il sera, je pense, très important s'il arrive à être actif sur la pelouse de la section paloise. Voilà pour ces deux affiches du week-end, ces deux barrages. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Merci messieurs d'avoir été avec moi ce soir. N'oubliez pas votre programme. Samedi soir, 21h05, section paloise, Racing 92 au Hameau. Et dimanche soir, 21h05, Stade Français La Rochelle à Jambouin. Vous pouvez aussi écouter les entretiens des poteaux. Deux ont été diffusés cette semaine avec Paul Boudéan, le premier, avec Louis Carbonel, le second. C'est très sympa. Écoutez-les, vous verrez, je ne suis pas biaisé du tout quand je vous dis ça. Bon week-end de sport sur RMC et rendez-vous lundi pour un nouvel épisode d'Entre les poteaux. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.